VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Violence en RDC. Les affrontements dans le sud-est du pays ont poussé près de 3 400 personnes à fuir en Zambie depuis fin août, a annoncé ce mardi le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les gens fuient les affrontements interethniques ainsi que les combats entre les forces de sécurité congolaises et des milices, a affirmé un porte-parole du HCR, Andrej Majcic, lors d'un point de presse à Genève. Les réfugiés disent fuir une brutalité extrême avec des civils qui sont tués, des femmes violées, des biens pillés et des propriétés incendiées, a souligné le porte-parole en précisant que la plupart des fuyards viennent des provinces du Haut-Katanga et de Tanganyika. Crise anglophone au Cameroun, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux autorités camerounaises une enquête sur les actes de violence signalés dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du pays le 1er octobre. Des actes de violence ayant donné lieu à des pertes en vie humaine. Monsieur Guterres exhorte les dirigeants politiques des deux côtés à demander à leurs partisans de s'abstenir de tous nouveaux actes de violence et condamner sans équivoque toute action qui puisse nuire à la paix, la stabilité et l'unité du pays, a précisé lundi soir son porte-parole Stéphane Dujarric. En cours depuis près d'un an, la crise anglophone au Cameroun a connu son épisode le plus sanglant dimanche, avec au moins 17 morts en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance des anglophones, selon un bilan établi lundi par Amnesty International et des sources officielles. Pour sa part, le gouvernement camerounais rejette les bilans faisant état de 17 à 30 morts dans les régions anglophones suite aux manifestations pro-indépendantistes du 1er octobre. Selon Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, 10 personnes ont perdu la vie dans ces incidents. M. Bakari a réitéré l'appel à négocier, mais seulement avec ceux qui rejettent la violence. Issa Chiroma Bakari, joint à Yaoundé par Abdourahman Dia.
Quand vous parlez de 17 ou 30, il y a une exagération. Avec 17, je dirais qu'il y a 7 de trop. Il y a eu 10 morts, dont 5 prisonniers qui ont mis le feu dans leur prison. Malheureusement, 5 en ont perdu la vie. Et puis 5 autres qui ont fait usage de leurs armes et en légitime défense. Nos forces de défense et de sécurité ont riposté et malheureusement, 5 personnes y ont perdu la vie. Voici le bilan que nous avons en ce moment.
Alors le 1er octobre, c'est quand même une journée symbolique qui était censée rassembler tous les Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
On en est arrivé là simplement parce qu'il y a eu des Camerounais qui sont en rupture de banc, parce qu'il y a des Camerounais qui sont en dissidence, parce qu'il y a des Camerounais qui ont remis complètement en cause le consensus qui nous a permis de bâtir une journée acceptable. Rappelez-vous que le Cameroun a accédé à l'indépendance le 1er janvier. La réunification est venue le 1er octobre. On célébrait les deux à un moment donné. Et puis, parce que le fédéralisme a cessé de satisfaire aux attentes et aux exigences économiques de vouloir vivre notre nation, alors il y a eu donc une consultation référendaire en 72 qui a permis donc qu'on adopte le 20 mai comme fête nationale. Maintenant, vous avez donc les irrédentistes, vous avez ceux-là qui remettent complètement en cause ce consensus et veulent carrément se détacher du Cameroun.
Le président Paul Biya a appelé au dialogue, mais avec qui?
Avec toute personne qui fait des lois de la République et de la Constitution le cadre légal et légitime pour toute négociation, pour tout dialogue et discussion.
Issa Chiroma Bakari, ministre camerounais de la Communication, joint par Abdourahman Dia. Au Tchad, les élèves ont repris le chemin de l'école après 3 mois de vacances, mais cette reprise des cours ne rassure pas le syndicat des enseignants tchadiens qui exige du gouvernement le paiement des arriérés de primes et de subsides dans un bref délai. Les précisions de notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
À peine démarrée, une menace de grève plane déjà dans ce secteur. Le syndicat des enseignants du Tchad exige du gouvernement le paiement des primes des examens et concours de l'année 2015-2016, les primes des encadrements des enseignants des écoles normales d'instituteurs et les subsides des maîtres communautaires avant la fin du mois d'octobre 2017. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Ahmad Kazali Mahamat Asil invite les partenaires à l'éducation nationale à un sens de responsabilité pour ne pas retomber dans la même situation que l'année dernière. carrière.
Le gouvernement fera tout son mieux pour que cette année s'achève aussi dans les meilleures conditions. Mais nous souhaitons aussi, en commun accord avec nos partenaires sociaux, maintenir le dialogue, la communication pour l'intérêt de nos enfants et pour la réussite des enfants tchadiens.
Une invite qui ne rassure pas le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad pour la commune de N'Djamena. Ngartoïde Blaise menace toujours d'appeler à la cessation des activités pédagogiques si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans un délai requis.
Nous ne pouvons pas vous dire quand il y aura des perturbations. Les primes, on peut encore peut-être s'attarder là-dessus, mais vous prenez les maîtres communautaires, les subsides. Aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans, ils ne sont pas payés. Donc, si rien n'est fait dans les semaines qui suivent, il y aura effectivement des perturbations.
André Kodnoumadingar, N'Djamena, pour VO Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, des anciens rebelles démobilisés ont réclamé lundi des primes à Mans dans l'ouest du pays, pendant que d'autres ont tenté d'occuper la préfecture de Bouaké dans la région du centre. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon le porte-parole des démobilisés, Julien Kessé, au moins 200 ex-rebelles se sont rendus à la préfecture de Mans pour réclamer une prime de guerre de 18 millions de francs CFA par personne. Personne ne nous considère, nous sommes négligés. Ceux qui ont combattu comme nous et qui ont été recrutés dans l'armée ont eu 12 millions récemment et nous, rien. Nous ne sommes pas d'accord, a expliqué M. Kessé. Un autre ex-rebelle, Shérif Lassina, a ajouté qu'ils attendent des propositions du gouvernement au cas où Abidjan ne peut pas verser entièrement les 18 millions réclamés. À Bouaké, une vingtaine de démobilisés ont essayé d'occuper la préfecture. Le préfet étant absent, ils ont reporté leur projet, a affirmé un des manifestants, Aboudou Diakité. Fin mai, 6 000 démobilisés réclamaient 18 millions de francs CFA par personne. La répression de leur mouvement s'est soldée par la mort de 4 anciens rebelles. Ces démobilisés demandent le même traitement que leurs anciens camarades qui ont intégré l'armée et qui ont obtenu gain de cause après des mutineries en janvier et en mai.
Afrique de l'Ouest toujours, le G5 Sahel verra-t-il le jour? La Mauritanie a exhorté lundi les bailleurs de fonds à appuyer financièrement la création de cette force militaire anti-djihadiste, regroupant des soldats du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Claire Morin-Gibault.
C'est lors d'une réunion à Nouakchott que la ministre déléguée chargée du Maghreb arabe, Khadijetou Mbarek Fall, a exhorté les donateurs à apporter leur appui. Une conférence dédiée aux contributions à cette force est prévue le 16 décembre 2017 à Bruxelles. La communauté internationale a endossé la mission de la force armée du G5 Sahel, qui est de combattre le terrorisme et le crime transfrontalier dans la région, a ajouté la ministre. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré le 9 septembre à Sévaré au Mali le poste de commandement central de cette force qui comptera à terme 5000 hommes. Les premières unités doivent être déployées en octobre et les bataillons devraient être opérationnels en mars 2018. Les dirigeants des pays du G5 Sahel ont débloqué des fonds pour commencer le déploiement, mais le financement est loin d'être bouclé. Seuls 108 millions d'euros ont été promis sur les 423 jugés nécessaires par les pays membres du G5 Sahel.
Actualité aux États-Unis maintenant, la fusillade de Las Vegas dans le Nevada, la plus meurtrière de l'histoire moderne du pays, soulève pour la énième fois la question de l'encadrement des ventes d'armes à feu. Mais ni le président Donald Trump ni le Congrès américain ne semblent prêts à agir dans ce domaine. Jean-Roger Bion.
Les adversaires démocrates du président américain ont déjà donné de la voix pour réclamer un débat de fond sur la question des armes aux États-Unis. Donald Trump a certes dénoncé un acte qui représente le mal absolu et a appelé l'Amérique à l'unité et la prière, mais n'a pas dit un mot sur la question des armes à feu. Peu après, sa porte-parole Sarah Huckabee Sanders a jugé ce débat prématuré. Au Congrès, Nancy Pelosi, la chef des démocrates de la Chambre des représentants, a elle écrit au leader républicain Paul Ryan pour réclamer la création d'une commission visant à proposer une loi de bon sens. Les réactions affluent du monde entier. La reine Elisabeth II a envoyé ses condoléances. Et en France, la tour Eiffel a été éteinte lundi soir en hommage aux victimes des attaques de Las Vegas et Marseille où il y a eu 2 morts dimanche. Le président américain Donald Trump se rendra mercredi à Las Vegas.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.